Emmanuel Mounier, Qu'est-ce que le personnalisme? Chapitre 2, Le personnalisme de l'engagement. De ces dangers inclus dans notre position première, nous avons pris une conscience de plus en plus aiguë à partir de l'année 1934 sous une double influence, ou plutôt dans un seul mouvement où s'entretenait étroitement l'action de quelques événements vécus et la réflexion sur ces engagements, si peu semblables à ceux que nous avions primitivement prévus. Une stratégie de la pureté révolutionnaire aboutit infailliblement, comme forme de son action, à la petite cohorte, sinon de pur, du moins d'hommes de bonne volonté, décidés à maintenir dans les sollicitations de l'action une certaine intransigeance de principe et de moyens. Dans toute la mesure, je ne le soulignerai jamais assez, où nous ne renonçons pas à cette stratégie, mais seulement à ces déviations toujours imminentes, ce fut et ce doit être encore là notre mode d'expression. Le petit groupe qui vaut par la qualité des hommes rassemblés et l'intensité du rayonnement, plus que par le nombre, qui ne se propose pas comme tel les grandes tâches révolutionnaires, les tâches massives, mais une action mixte de corps francs et de gardes du palais, la découverte hardie de paysages inconnus et la vigilance sur un trésor nécessaire au bonheur de tous, que les tumultes oublient ou menacent. La troisième force, qui fut pendant un an solidaire d'esprit, puis dont esprit se détacha avant qu'elle n'allât se jeter dans d'autres eaux, était un compromis entre cette milice et les formations du type habituel. Les groupes esprits qui la remplacèrent autour de la revue l'embrassaient de plus près. Un plus rigoureux ajustement est encore possible. Mais cette action de cohorte légère n'est pas entièrement maîtresse de ses chemins. Du jour où nous avions refusé le confort des attitudes sidérales, du jour où nous avions engagé le pied dans les situations et les problèmes de notre temps, les pentes de l'époque allaient nous entraîner vers des carrefours que nous n'avions pas fixé, et là, nous obliger à des options incompatibles avec la solitude des positions pures. À chaque coup, nous avons choisi au lieu de biaiser. Jamais notre choix n'eut cette allure héroïque, et cet automatisme satisfait qui semble, à en croire leurs propos, si commun parmi nos contemporains. Parfois, l'instinct décida sans hésitation. Mais longtemps après, l'intelligence se débattait et les pensées déchirées faisaient sentir leurs cicatrices. 6 février. La guerre d'Espagne. Le Front populaire. Munich. Vichy. Il y avait toujours assez de bonnes raisons chez l'adversaire, de sottises et de bassesses chez l'allié, pour risquer d'ébranler notre choix. Plus d'un s'y essayait. Tout cela fit souvent de ces combats des combats douteux. Maintenant que les jeux sont faits, les malentendus levés, nous savons que nous avons chaque fois bien choisi. L'épreuve même de ces choix nous éclairait sur le vrai sens de l'engagement spirituel. Non pas un développement historique aisé d'une situation imaginairement préconçue, mais la confrontation imprévisible et brutale à des situations de fait dont nous n'avons pas apporté les données et dont le développement nous échappe en grande partie. Selon les temps et selon notre place, nous dominons plus ou moins cet entourage. Submergé par ses œuvres, l'homme contemporain a rarement maîtrisé aussi peu qu'aujourd'hui le milieu où il plonge. ses concepts, ses instruments, ses sentiments, plus rien de lui-même n'est adapté au monde qui l'environne, ni capable d'y assurer sa souveraineté. C'est de là, sans doute, que s'explique le succès des doctrines qui déclarent le monde absurde et décrivent l'homme comme un solitaire maudit par les quatre coins de l'horizon, dont la seule grandeur est d'accepter, avec un courage dur, un univers qui n'a rien à lui demander, rien à lui dire. Expression forte d'une impuissance, témoignage viril d'une décadence, ces doctrines de fin de siècle ont cependant l'avantage de nous affronter, comme toute doctrine du Christ, à notre condition dramatique. Elles reprennent, en l'appauvrissant parfois, la description pascalienne de cette condition. Et ces philosophies de l'engagement qu'un Scheller, un Jasper, un Landsberg, derrière eux un Kierkegaard, après eux Gabriel Marcel et le jeune personnalisme français, avaient depuis longtemps développé, avant qu'elle n'excite l'attention frénétique des courriéristes littéraires. Nous sommes embarqués dans un corps, dans une famille, dans un milieu, dans une classe, dans une patrie, dans une époque que nous n'avons pas choisie. Pourquoi suis-je ici plutôt que là? Maintenant plutôt que lors? Un mystérieux dessein l'a décidé antérieurement à toute volonté de ma part. En moi se nouent les chiffres entrelacés d'un destin pressant et d'une vocation qui est un défi jeté à toutes les forces du monde. Mais cette vocation ne peut frayer son chemin que dans ce corps, cette famille, ce milieu, cette classe, cette patrie, cette époque. Je ne suis pas un cogito léger et souverain dans le ciel des idées, mais cet être lourd, dont une lourde expression seule donnera le poids. Je suis un moi, ici, maintenant. Il faudrait peut-être alourdir encore et dire un moi, ici, maintenant, comme ça, parmi ces hommes, avec ce passé. Cet engagement est une servitude, il n'est pas une malédiction. Il contribue à notre équilibre. Il neutralise l'égocentrisme qui, sans lui, nous distrairait sans cesse vers la mort de Narcisse. Le matérialisme et le collectivisme sont des manières brutales de nous rappeler que nous sommes hommes parmi les choses et hommes parmi les autres hommes, par les choses et par les autres, autant, souvent plus, que par le recueillement solitaire. Nous ne devons pas laisser aux mains des fascistes la belle notion de communauté de destin. Le canton de l'univers qui nous est départi ne nous enferme pas pour autant dans cette sorte de provincialisme spirituel que les traditionnalistes réactionnaires ont voulu imposer à l'humanité voyageuse et inquiète d'aventure. Ces contraintes même sont ouvertes sur un appel d'avenir, et ces paysages se profilent sur un horizon d'universalité. Bonald et Condorcet n'ont chacun vu qu'un élément de cette condition mixte. Nous ne sommes pas, selon le rêve paranoïaque des surréalistes, des fous de liberté, projetant sans entrave désirs et délires dans un monde aboli. Nous ne sommes vraiment libres que dans la mesure où nous ne sommes pas entièrement libres. Nous ne sommes pas non plus les condamnés aux travaux forcés d'une histoire sans appel. Nous ne pouvons être sans assumer, et nous ne sommes pas sans espérer et vouloir. Il est symptomatique que la volonté et l'engagement aient connu dans le monde moderne une déconsidération et un recul parallèles, et que le désespoir contemporain soit né de nos démissions, quand même il engagerait quelques-uns à les remonter. Cette double condition, où la joie existentielle est mêlée à la tension tragique, fait de nous des êtres de réponse, des responsables. Il faut revaloriser ces mots. Il y a là un type unique d'existence. Non seulement il est propre à l'homme, mais il ne trouve sa place chez l'homme ni dans un monde atomisé, ni dans un monde asservi. Il semble parfois que l'homme contemporain ne sache qu'osciller de celui-ci à celui-là, du soliloque égocentriste au conformisme animal, d'un faux ange à une vieille bête. Nous nous définirions assez bien par le goût d'éviter ces deux singeries à l'homme qui naîtra de la crise présente. La conséquence immédiate de cette condition, c'est que nous ne pouvons accrocher notre action à un idéal abstrait, tiré d'une méditation purement individuelle, et essayer d'imposer ce préjugé à un milieu qui n'a pas eu part dans son élaboration, ou refuser en son nom toute activité historique concrète, sous prétexte que nulle part nos prétentions ne nous sont intégralement accordées. C'est par ce double biais du doctrinarisme ou de l'abstention boudeuse que les consciences exigeantes trahissent leur mission historique. Les utopies sont multiples. Utopie rêvée, utopie planifiée, utopie optimiste du progrès fatal, qui détend de tout ressort, quand l'optimisme chrétien se naturalise, il joue dans ce sens. Utopie catastrophique, qui encourage une hautaine d'émissions devant un monde dont on sait la décadence fatale. L'abstention se systématise volontiers dans des positions ni-ni, ni fascisme, ni communisme, ni droite, ni gauche. D'autres préfèrent les positions en A plus B divisé par 2, qui se proposent comme adversaires de l'utopie, des utopies extrémistes, et sont en fait une forme particulière d'utopie, l'utopie centriste. Leur schéma, très construit, consiste à bloquer une réalité complexe en deux projections extrêmes, pour s'offrir la satisfaction de représenter à égale distance de chacune le bon sens ou la raison, en fait une abstraction éclectique soutenant un goût moyen de l'immobilité. Il faut enfin ranger ici les attitudes moralistes, dont le tort n'est pas d'affirmer que la conduite de l'homme dépend d'un parti pris sur l'homme, mais de vouloir immédiatement déduire de ce parti pris des règles de conduite collective, au lieu de le faire historiquement mûrir dans des situations éprouvées et des techniques efficaces. Les habitués de ces positions imposent, par le ton de noblesse et d'indépendance qu'ils aiment à prendre. Il arrive que leur sincérité soit presque entière. Il arrive aussi que de lourdes servitudes d'esprit ou de vie s'abritent sous ces dignes dehors. Aucun de ces chemins, en tout cas, n'a d'issue. Analyser directement le mouvement de l'histoire dans une expérience vécue et progressive est le seul moyen efficace de diriger l'histoire. C'est un point où le réalisme personnaliste côtoie très étroitement la méthode marxiste. Son effort pour dégager les problèmes historiques de l'a priori et pour souder la connaissance à l'action. Si toute action nous insère dans un monde de données préexistantes, il n'y a jamais pour l'action de pureté. Toutes les situations sont des situations impures, mêlées, ambiguës et par le fait déchirantes. Vouloir agir et ne rien abandonner de ses principes ou ne pas se salir les mains est une contradiction dans les termes. Elle exprime un pharisaïsme égocentrique, attaché à l'image de soi, plus qu'au destin commun des hommes. Un chrétien peut rêver une révolution qui ne serait faite que par des saints, dans une société de saints. S'il reconnaît qu'une révolution est nécessaire au rétablissement de conditions de vie devenues indispensables à la naissance même d'une préoccupation spirituelle, et si cette révolution a mûri sans lui, hors de lui, depuis des années, il ne peut lui faire systématiquement obstacle, même s'il juge que son éloignement de l'esprit chrétien le rend spirituellement redoutable. Son seul devoir est alors de presser sur son heure ou sur son jeu, afin que l'homme n'en sorte pas pour longtemps déshumanisé. Le patriote qui, en 1793, jugeait indispensable que la révolution des droits de l'homme triomphât définitivement de l'absolutisme monarchique, devait, même à sa répugnance, accepter les mesures de salut public que commandait le danger extérieur et intérieur, voire même les erreurs des gouvernements révolutionnaires. S'abstint-il de participer à leurs excès et s'y opposa-t-il, dans certaines limites, jusqu'à l'extrême du courage. Ces réflexions nous conduisent à situer de manière nouvelle le rapport de la conception à la mise en œuvre de l'action. Une action raisonnable n'est pas une action d'abord entièrement pensée, dont les modalités sont déduites au second temps des principes ou des schémas préétablis. Certes, cet ordre n'est pas exclu. L'étrange aptitude qu'a l'homme à se désarticuler sans se rompre les os nous oblige à reconnaître qu'un Kierkegaard a pu écrire remarquablement du mariage en fuyant le mariage. Un Rousseau ou un Comte éclairait des générations de politiques sans avoir gouverné les États. Mais ces réussites sont exceptionnelles et il serait trop facile d'en dénombrer les vices. En règle commune, la théorie se forme dans l'expérience et par elle. Il n'y a pas déduction immédiate et certaine d'une théorie élaborée aux formes d'action qui peuvent en émaner. Pour prendre l'exemple qui nous touche le plus immédiatement, le personnalisme, si chargé d'épreuves soit-il déjà, ne commande pas nécessairement telle ou telle forme d'action historique. C'est par une création nouvelle, différente selon le lieu et le temps, que des inventeurs de politique pourront lui donner éventuellement un destin politique. Ici, il suscitera un mouvement d'action, voire un parti, constitué sur ses perspectives propres et les greffant à une situation favorable. Il va sans dire que, selon que sera comprise et conduite cette insertion, l'inspiration personnaliste pourra frayer des voies assez diverses, dont certaines pourraient être reniées par d'autres personnalistes, tant il est aisé d'incliner n'importe quelle inspiration en lui donnant corps à des fins ambiguës. Républicain avait un sens rigoureux en 1792, socialiste en 1880, qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Et déjà nous connaissons des communismes ennemis. L'histoire disperse les souffles qui lui viennent en même temps qu'elle s'en pénètre. Ailleurs, là où les circonstances feraient d'un organe d'action personnaliste un instrument de division des forces révolutionnaires contraire à l'audience même du message personnaliste dans la Révolution, le personnalisme ne se concédera qu'un minimum de corps dans un rassemblement révolutionnaire où il infusera sa force de l'intérieur. Cette conception de l'engagement doit avoir ses incidences sur l'éducation encore traditionnellement donnée dans les milieux où subsiste le souci d'une formation de l'homme spirituel. Les milieux rationalistes la suspendent à la formation de l'objectivité critique. Devant le destin qui le presse de toutes parts, il pousse l'homme à une attitude spectaculaire et détachée, dont le modèle est emprunté à la pensée scientifique. S'il s'agit de placer auprès de l'homme engagé la sentinelle vigilante de la lucidité, on ne peut que se réjouir de ce retour de raison, au moment où la pensée mythique vient d'opérer de tels ravages dans les avenues lentement dégagées par la raison. Cependant, le rationalisme n'est pas innocent de cette offensive du mythe. Le rationalisme est la police de l'esprit. Une police est indispensable, mais les sociétés policières étouffent. L'attitude spectaculaire qu'un rationalisme clos sur lui-même impose dans les affaires qui intéressent le destin individuel ou collectif de l'homme aboutit par une tangente presque fatale à l'indifférence devant les contraires, à l'abstention criminelle dans l'action. Si les milieux de droite ont trahi avec le fascisme par des affinités directes, évidentes chez le réactionnaire Pétain, les milieux de gauche et les milieux libéraux ont connu la trahison devant le fascisme, dont l'honnête Chamberlain reste le symbole, Gomorre noué perdu de cette activité mortelle qui refuse de distinguer le bien et le mal, la nourriture et le poison. Or, la connaissance des choses de l'homme et du monde dans la mesure où il intéresse l'homme ne se noue que dans l'engagement que nous acceptons avec son objet. Cette connaissance engagée est la vraie objectivité, car spectaculaire en matière humaine, dissout l'objet au lieu de le révéler. Que la connaissance soit engagée n'implique nullement, bien au contraire, que le connaissant se prive du bienfaisant souci de comprendre ce qui en est étrange, et même ce qui lui est hostile. La compréhension absolue de l'adversaire demande à l'homme engagé un effort beaucoup plus enrichissant que la simple neutralité objective, car l'adversaire, pour lui, est un éducateur et un appui en même temps que de force à renverser. Cette compréhension, quand elle est issue de l'engagement, contribue à fortifier l'engagement par le combat perpétuel où elle l'expose. Mais la compréhension issue de la neutralité n'est que dissolution de l'esprit. Dans les éducations d'incidence religieuse de notre basse époque, ce n'est plus l'objectivité d'indifférence qui décompose le caractère, mais la culture du scrupule. On confond trop volontiers aujourd'hui l'intériorité religieuse avec le subjectivisme idéaliste. Le péché, comme la vertu, porte au-delà de l'individu, blesse Dieu et l'ordre du monde avant de flétrir le pécheur. Le narcissisme moderne l'a rabattu sur les préoccupations de l'individu. Il a mis l'accent sur la ternissure de l'image de soi, l'impureté, masquant ses perspectives essentielles, révolte contre Dieu et démission de poste. La parabole des talents est cependant dressée au cœur de l'Évangile. Ce talent ne t'a pas été donné pour le polir et le polir sans cesse, mais pour en faire deux talents. Le souci maladif de la conscience sans tache arrive à étouffer, chez celui qui l'occupe, le sens authentique du spirituel. On ne dit pas que la notion de pureté soit vide de toute valeur, mais isolée, elle gâte la vie spirituelle. Elle attire l'attention sur un état du sujet consécutif à l'âme et conservateur de soi, au lieu de la porter sur la liberté créatrice, sur son essor, sur ses buts lointains ou sur son entourage. Le souci de la pureté sous cette forme, qui est la plus commune et qui vicie de très fiers sentiments, est un souci égocentrique et non théocentrique ou altérocentrique. En quoi les marxistes ont raison de dire qu'ils glissent souvent sur le goût bourgeois de la respectabilité et de l'intégrité individuelle. Dans une époque aussi pénétrée que la nôtre du narcissisme, jusque dans ses plus hautes altitudes, il importe de mettre désormais en relief, contre le primat du scrupule et de l'intégrité, les valeurs de décision et d'engagement. Qu'on me pardonne de citer Hitler en pareille matière. Il écrivait dans Mein Kampf « À un problème donné, mieux vaut une réponse quelconque, une réponse imparfaite, que pas de réponse du tout. » C'est une règle fondamentale de la conduite individuelle, aussi bien que de l'action collective. Les spirituels sont trop souvent dans les coups durs, absents pour raison de conscience. Une certaine manière de défendre le souci de témoignage contre le souci d'efficacité, de détourner les trop purs enfants de Dieu de la vie militante vers les catacombes, relève d'une faiblesse combative et parfois d'un goût morbide de l'échec, plus que des hautes raisons que l'on en donne. L'arbre n'a pas peur de porter des fruits, ou bien il est un arbre malade.